Isaac vit, et cela sera sa vie, son histoire et son existence, l'existence de l'homme de strictité et de rigueur absolue. Mais par où passe la volonté du Créateur? Il y a compétition de deux absolus. Et l'un et l'autre sont ensemble dans l'épreuve. Le verset, vous voyez, les rouges, mais Merta et Isabel, les deux ensemble, et dit deux fois, le premier, l'accent est mis chez Abraham, le deuxième, l'accent est mis chez Isaac. Et ça me permet déjà rapidement de mettre en évidence ça. Il y a là deux épreuves. Il y a là deux épreuves. Abraham est éprouvé en tant qu'homme de la charité. En tant qu'homme de charité, plus exactement. Qui ne connaît Dieu que comme celui qui donne, jamais comme celui qui reprend. Et voilà que l'épreuve à laquelle il est soumis, c'est de savoir, en fin de compte, nous avons eu 9 récits d'épreuves, es-tu charitable? 9 fois, Abraham a fait la preuve qu'il est charitable, qu'il est racine, qu'il est l'homme de la Midah Maaseh. En fait, donc, le Dieu unique l'interpelle dans le principe complémentaire, en tant que Dieu de la rigueur. Es-tu maintenant capable de rendre ce qui t'avait été donné? Es-tu capable de payer le prix de ce que tu as reçu en charité? Cette dernière épreuve d'Abraham, Dieu, dans son visage du principe de rigueur absolue, Ha'elokim, éprouve Abraham. Un des Midrashim nous dit, Ve'Hashem Nisa et Abraham, non Emma. Et là, Ve'Hashem Nisa et Abraham. C'est pas Dieu comme principe de charité et de miséricorde qui a éprouvé Abraham ici. C'est Dieu comme principe de la rigueur absolue. De telle sorte qu'Abraham fasse la preuve qu'il est le juge de l'unité des valeurs. Sa vertu dominante est d'être l'homme de charité, mais pas n'importe quelle charité, celle qui connaît aussi le lien avec le principe de la justice absolue. Ça, c'est l'épreuve pour Abraham. L'épreuve pour Isaac, c'est va porter sur son identité même. L'épreuve d'Abraham porte sur sa vertu. Est-il capable aussi de la vertu de rigueur? J'espère que malgré la traduction des catégories hébraïques, l'analyse est suffisamment claire en français. Mais l'épreuve d'Isaac, elle, porte sur son être, porte sur son existence, porte sur lui-même. L'épreuve d'Abraham est une grande épreuve, mais l'épreuve d'Isaac, c'est l'épreuve par excellence. Et c'est pourquoi le titre de ce thème dans la tradition hébraïque ne parle pas du sacrifice d'Abraham ou de l'épreuve d'Abraham, et pourtant c'est Abraham qui est éprouvé. Mais du sacrifice d'Isaac, sacrifice entre guillemets, de l'épreuve d'Isaac. Les deux capacités d'épreuve sont reliées. C'est Abraham qui est éprouvé. Nous sommes arrivés à cette analyse à la fin du cours de texte du séminaire de ce matin. Je me borne à le citer, à sa place dans l'organisation du raisonnement. J'espère qu'il fallait attendre qu'Isaac soit prêt à sa propre épreuve pour que l'épreuve d'Abraham puisse commencer.
Mais dans la tradition juive, de lecture juive, il est bien évident que l'essentiel de l'épreuve, dans l'histoire même de la péripétie d'événements, porte sur Isaac. Eh bien, nous allons lire le résultat. Le résultat, c'est que la vertu de justice que représente Isaac dans ce thème ne doit pas être supprimée. Et on aurait pu penser que la préséance sera donnée à la manière d'être juste comme Abraham, et que c'est Isaac qui faut supprimer. Qu'en fin de compte, dans cette perplexité, par où passe la volonté du Créateur? La charité est de le Créateur, celui qui donne, ou la justice stricte et notre conscience créée par ce Créateur est sensible absolument, radicalement à ces deux vertus. En tout cas, c'est ainsi que la conscience hébraïque entend la découverte et la relation aux valeurs de l'absolu et de la moralité. Nous sommes, comme par tendance héréditaire, si j'ose dire, de cette identité des Hébreux, nous sommes sensibles à tous les absolus à la fois et réfractaires à ce choix arbitraire d'une vertu plutôt que l'autre qui a été le choix des civilisations, mais non pas celui de l'identité Israël, de l'identité hébraïque. Et Israël est le serviteur du Dieu unique. Cela signifie de l'unité des valeurs. Et ainsi, d'ailleurs, lorsque nous, dans nos voyages, nous sommes en relation avec telle ou telle civilisation qui, elle, choisit un absolu privilégiée est mise en évidence, eh bien, nous sentons une certaine familiarité avec toutes, parce que dans toutes, il y a chacun des absolus. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. C'est comme si le juif se reconnaît aussi là, et aussi là, et aussi là, dans une civilisation de la charité, parce qu'il connaît aussi, mais il a la charité, mais aussi dans une civilisation de la stricte justice, parce qu'il connaît aussi la Midasadine, mais d'une manière différente, toujours non conformiste, parce qu'il nous manque, et il nous manquera toujours, la valeur complémentaire qui mène à l'idée de l'unité des valeurs. Puisque l'idée à l'absolu de l'unité des valeurs qui, lui, est au-delà de leur somme ou de leur totalité, mais qui est dans l'infini, qui dépasse leur unité. Et c'est pourquoi, peut-être, le juif est, comme par hérédité, donc, de l'hébreu, fasciné par toute civilisation où au moins un absolu est mis en évidence, mais toujours comme non-conformiste de complémentarité, si j'ose. Je ferme cette parenthèse, qui est importante, mais pour bien lire ce qui va se passer dans la Haggadah Yitzchak, dans le sacrifice entre guillemets, ce n'est pas un sacrifice, mais un ligotement. Il ne faut pas supprimer la vertu de justice, mais il faut la réprimer. Et il faut la réprimer par les mains de la vertu de charité. C'est Abraham qui doit attacher Isaac. Et c'est cela qui se passe. C'est cela qui se passe dans l'enseignement hébraïque de ce texte donné en hébreu. Pas du tout un mythe d'une violence sacrée où le père aura à tuer le fils, où le père aura à sacrifier le fils. Ceci, c'est la réaction de la lecture païenne de ce texte. Ce qui se passe en hébreu, c'est que l'homme capable de charité doit trouver la force de réprimer la vertu de justice, à laquelle lui-même, il a donné dans les difficultés de la naissance d'Isaac, il a donné naissance. Et que si cette vertu de justice ne se laisse pas réprimer, alors il faudra la supprimer. Mais la grandeur d'Isaac, c'est qu'il a accepté que son absolu d'identité soit réprimé pour entrer dans l'histoire comme un Isaac attaché, comme un Isaac ligoté, et non pas comme un Isaac dans toute son entièreté, des torfos, comme on disait en hébreu dans les pokers, dans sa impétuosité. Parce que un Isaac impétueux est dangereux. Le Isaac qui ne serait que Isaac, c'est ça Esaü. Et nous allons voir dans différentes sources que je vais citer. Et d'une certaine manière, si vous voulez, nous avons là l'essentiel de la source que je voulais décrire, si j'ose dire, parce que nous devrions l'étudier à la loupe, le texte ayant des mots, chaque mot ayant une lettre. Et vraiment, c'est un texte qui se prend à la lettre. Mais je voulais vous restituer l'essentiel. Et vous le retrouverez, bien sûr, à la manière du Maor Vachemesh, mais il y a d'autres sources qui convergent vers ce même enseignement. Je me bornerai à citer deux conséquences de cette première analyse. C'est le fait que la récompense, si j'ose dire, le corollaire qui va protéger la descendance d'Abraham et d'Isaac, Israël, à travers Jacob, c'est cette référence que la liturgie juive a de façon si abondante. Varakedat Yitzhak Hayom Lezaraot Yitzkor, par exemple. Dans la liturgie de Yavim Noraim, de Rosh Hashanah et de Kippour, il y a ce verset refrain, si j'ose dire, qui revenait, et souviens-toi aujourd'hui, quel jour, le jour du jugement à Rosh Hashanah, lorsque la justice va réclamer ses droits, lorsque la vertu, la médiation de justice absolue, le Yom HaDin, va réclamer le jugement, alors la descendance d'Isaac peut dire « Va'akedat Yitzhak Hayom Lezaraot Yitzkor » c'est-à-dire en ce jour « Souviens-toi de l'attachement de l'identité d'Isaac. » Nous sommes les descendants de cette identité qui a eu cette héroïne de se laisser attacher par les mains d'Abraham. La vertu absolue et la conception de la rigueur de la justice à travers cette identité ne mènera pas à ce dévastement, à cette dévastation de ce qu'elle pourrait être à travers toute autre société qui érigerait le principe de l'égalité en règle de la gestion de la société. Ce sera la deuxième source que je citerai. En particulier, il y a, je donnerai la référence, non pas le temps de lire le texte, mais dans la Gemara de Shabbat, il y a l'enseignement suivant. Si c'est nécessaire, d'ailleurs, je vous donnerai les références et les versets et les pages des sources, mais j'ai peu de temps, il y a trop de choses que je voudrais quand même évoquer ensemble. À propos d'un verset du prophète Isaïe, où nous nous adressons, semble-t-il, d'abord à Isaac, en lui disant, c'est toi qui es notre père, parce que Abraham ne nous a pas reconnus, Israël ne nous a pas reconnus, tant Abraham que Jacob. Toi qui nous as reconnus, c'est toi que qui est notre père, Aka Avin. À la fin du verset, la même expression, au début du verset, c'est l'enseignement de la Gemara qui est dans Shabbat, à la page 89b, je me dis. La fin du verset dit, Aka Hashem Avin, c'est toi, Dieu, nous, qui est notre père. La Gemara explique que c'est la manière suivante. C'est que, un jour, Dieu, jugeant l'histoire de la descendance des patriarches, va convoquer les patriarches. Il convoque d'abord Abraham. Et il dit, Abraham, ta descendance a fauté. Que faut-il faire? Abraham répond, annuler pour la gloire de son nom. Alors en bas, les Juifs, Israël, disent, Abraham ne nous reconnaît pas. Et alors Dieu se dit, Abraham, il n'a pas su répondre. Je paraphrase un peu. Mais si vous ne pouvez pas lire le texte, on les a. Je vais demander à Jacob. Alors, Dieu convoque Jacob. Et Jacob, même dialogue. Jacob, tes enfants ont fauté. Que faut-il faire? Jacob répond comme Abraham, annulé pour la gloire de son nom. Et Dieu dit, j'ai trouvé de sagesse, ni chez les anciens, ni chez les nouveaux. Abraham l'ancien, Jacob le ni chez les vieux, ni chez les adolescents, je sais. On peut comprendre. Non, on va comprendre après. Et alors, à ce moment-là, Abraham se dit, je vais convoquer donc Isaac. Il convoque Isaac. Dieu dit, je vais convoquer Isaac. Il convoque Isaac. Et il dit, Isaac, tes enfants ont fauté. Alors Isaac a cette réponse magnifique. Comment? Maintenant qu'ils ont fauté, c'est mes enfants. Avant, c'était tes enfants. Quand tu les as choisis. Et ça ressemble très exactement au dialogue entre le père et la mère. C'est pas la peine de continuer, vous connaissez ça, c'est avec rien. Hein? Mon fils, ton fils, ma fille, ta fille. Et alors, Isaac dit ceci, un plaidoyer extraordinaire, qui mérite d'être étudié dans le symbolisme du détail. Isaac dit, bon, on va s'arranger. Combien d'heures dans la journée? 24. Pendant la moitié, ils dorment. Ils peuvent pas fauter. Quoique, on peut fauter en dormant. Mais, enlève déjà la moitié. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? 12 heures. Bon, il faut bien qu'il travaille. Pendant qu'il travaille, il ne faute pas. Qu'est-ce qu'il reste? La moitié de 12 heures. Et puis, il faut qu'il mange. Eh bien, qu'est-ce qu'il reste? Il reste déjà beaucoup moins pendant qu'il mange. Il ne faute pas, quoique. Mais vous voyez quel est le raisonnement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste quelques heures. Mais il prie, ces juifs-là. Alors, pendant qu'il prie, il ne faute pas, quoique. Mais, et après, qu'est-ce qu'il reste? Il étudie. Là, il reste très peu, une heure et demie par jour. Alors on partage, prends la moitié et moi la moitié, puisque moi j'ai accepté le sacrifice. Et c'est ce que je voudrais mettre en évidence, c'est ceci. Isaac, qui est le juge de la rigueur absolue, lui peut plaider pour celui qui a fauté. Quand l'homme de charité plaide, c'est pas clair. Quand l'homme de miséricorde plaide, Abraham, Jacob, c'est pas clair. Que l'homme de la rigueur absolue plaît, alors là, c'est un vrai plaidoyer. Voilà ce que la Gemara veut mettre en évidence. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Et il peut plaider, parce qu'il est l'homme de la justice qui a accepté la justice qui pardonne. Et il a accepté d'être ligoté. Il a accepté que l'entièreté, l'absolu, l'impétuosité de la rigueur soit attachée, soit réprimée. C'est le mot que je cherchais. Et alors, il dit à Dieu, tu peux faire comme moi. Vous voyez quel était le principe de cette lecture. Et pendant que s'est passée cette scène dans l'histoire des hommes, ça se passe comme récompense, corollaire à la racine des absolus. Pendant qu'Isaac accepte d'être attaché, alors là-haut, le principe de la rigueur est supprimé. Et ligoté, mais il n'est pas supprimé. Voyez donc vers quoi on se chemine. La deuxième référence va me permettre de poser cette même question à un problème, je dépasse le niveau d'être, c'est une expression de Madame Amado Valenci, je dépasse le niveau d'être métaphysique, ontologique, des vertus de la conscience morale pour arriver à travers l'histoire et la politique au problème de la gestion d'une société. Le principe de la gestion d'une société, c'est la loi, c'est la légalité. Et là va apparaître, si vous voulez, un thème extrêmement important. C'est l'opposition que la typologie traditionnelle va faire entre David et Ésaü. Ésaü, c'est ce fils d'Isaac de la rigueur absolue, de la légalité. Derrière Ésaü, la tradition juive a vu les sociétés humaines du type légal, où la légalité écrase l'individu. Et c'est pourquoi, historiquement, la typologie juive a incarné cette identité culturelle Ésaü dans Rome. Rome, d'abord l'Empire romain, et ensuite toutes les sociétés de droit romain. L'histoire typologique d'Ésaü incarnée dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'histoire de Rome, est très complexe, ça pourrait faire l'objet d'une étude très vaste, mais dans ces deux états, d'abord la Rome impériale, et ensuite la Rome chrétienne, à ça je ferai allusion, mercredi soir, dans le thème qui vous a été indiqué. Mais reprenons, si vous voulez, le principe formel de la légalité du droit écrasant l'individu. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est en latin que cela a été dit. C'est en romain que cela a été dit. Dura lex, c'est lex. Je ne sais pas si les fabricants du dura lex ont pensé à cela, mais le légalisme n'est pas de la tradition juive. Quelle que soit la calomnie qu'il y a eu dans l'histoire. Le légalisme, c'est le juridisme des sociétés de droit romain. Je ne veux pas charger Rome, si vous voulez, mais de cette conception de la loi qui écrase l'individu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au nom de la loi, on peut assassiner n'importe qui. Lorsqu'on a fait l'union de savoir que Isaac est fils d'Abraham, et que Isaac a été une fois attaché par les mains de la charité, c'est-à-dire par les mains d'Abraham lui-même. Bien là, je voudrais reprendre un texte auquel j'avais fait allusion très rapidement à un séminaire précédent et vous donner quelques références à ce sujet. C'est un texte du Rav Kook qui se trouve dans la page 14 du livre Oro, et où le Rav Kook rappelle l'horreur de l'État comme État de la tradition juive. Je vais lire le texte, il n'est pas très long, simultanément en hébreu et en français, et lui donner quelques références à ce sujet. Ce sera ma deuxième analyse d'implication du principe que j'ai essayé de décrire tout à l'heure. Voici ce que dit ce texte. « Azagnu et ta politica olami, nous avons abandonné la politique mondiale. » C'est le Rav Kook qui parle en se référant à ce qui se passe dans l'histoire du peuple juif depuis 2000 ans, depuis que Rome a détruit la Judée il y a 2000 ans. Et le Congrès juif mondial, par exemple, c'est une institution très récente. Mais pendant 2000 ans, la société juive, le peuple juif comme tel, ne participe pas de la politique mondiale espagnolée. Voilà ce qu'il dit là. Avons-nous la politique à Orami, nous avons abandonné la politique mondiale, mais on est chez les beaux ratons pnimi, ce qui est très joli à nous. Par un viol, enfin on nous a obligés, mais on est. Par une contrainte chez les chevaux ratons pnimi, avec consentement intérieur. On nous a obligés, on nous a expulsés de la politique, mais nous avons consenti à cette expulsion. Pourquoi? Adachet savour et neuchet, jusqu'à ce que puisse arriver un temps heureux chez Yehusha, le Naël Mamlacha, où l'on pourra gérer une société, velo richa ou barbariout, entendez le mot, sans barbarie. Parce que l'État, c'est la barbarie a priori. Et puis, ce n'est que récemment, depuis les révolutions françaises, russes, qu'on a en tout cas verbalement entendu parler de l'idée de principe de gestion d'une société au nom des valeurs morales. Mais jusque-là, l'Empire, c'était l'Empire brutal. Des barbariout ou des brutaliout, comme nous disons dans les œuvres contemporaines. L'idée de l'État comme tel, c'était l'horreur de la vie. Et bien sûr, il y a eu toutes ces grandes exceptions d'éclipse de la barbarie dans les sociétés en général de petite échelle, où on réussissait à vouloir fonder la vie sociale sur les principes de la moralité, c'est indéniable. Mais la grande histoire, en récapitulation générale, des malchouillots, des empires dans le sens strict, c'était l'histoire de la barbarie et au nom de la loi. Et elle a été vécue par les juifs dans les ghettos. Elle a été vécue par les juifs dans cette histoire du peuple juif à travers les malchouillots. L'exemple biblique, c'est l'Égypte des pharaons. Et ce qui est arrivé, advenu des Hébreux dans l'État pharaonique. Mais c'est la ligne conductrice. Ce n'est que récemment, et je crois que pour notre temps de culture, notre temps culturel, c'est autant de la Révolution française que pour la première fois on entend cela, qu'on va fonder une société sur des principes comme liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire sur les principes de la moralité. Jusque-là, et les Juifs en sont témoins dans leur histoire, la personne humaine était écrasée par cette barbarie de la politique, c'est-à-dire une politique où décidément la morale et la gestion de la société sont dans les principes radicalement séparés, dans le principe d'un dualisme absolu. La morale, c'est la vie intérieure, c'est la vie privée, à la rigueur la vie individuelle. La politique n'est pas fondée sur les valeurs morales, mais sur la dialectique des intérêts, la raison d'État. Il est inutile d'arranger l'analyse. Je crois que le principe est clair. Là, ici, ce que dit le rabbin est d'ordre d'espérance messianique. Nous avons abandonné la politique mondiale tant qu'il nous était évident que la société de l'État, c'était riche en barbarie que la barbarie. J'avance. Heureusement, chez Anoum et Karim, ce temps-là, l'on pourra gêner la société humaine sur les valeurs morales, c'est ce temps que nous espérons. Nous voilà là. La chose est claire. Je peux dire à Shimon que pour le réaliser, à nous trifimek envers le kochotenu kula, nous devons, il parle du peuple juif, nous éveiller avec toutes nos forces à la fois, et nos forces spirituelles, et nos forces strictement dans le sens élémentaire, politique ou social. Les ishtamish de kola yamsarim shahazman levi, de nous servir de tous les moyens que le temps nous propose, met à notre disposition, à kol yamelboré korolamim menalev, parce que tout, nous entrons de nouveau dans la catégorie de l'unité des valeurs, parce que tout est géré par la main du même créateur, à travers toutes les médias. Abad, mais, à ichou, ou ichou, mouchach, ce retard dans lequel nous étions par rapport à la vie politique est un retard nécessaire. Nous sommes restés en arrière depuis 2000 ans dans l'histoire de la participation à la vie politique. Pourquoi? Parce qu'on nous avait empêché, mais parce que nous ne voulions pas. Parce que la rigueur comme principe du légalisme, comme principe de la gestion d'une société, c'est la barbarie. Et puis il y a de très belles phrases pour montrer l'affolement de la conscience juive à l'idée d'un État juif. Il a fallu attendre le temps, dit le Rav Kook, où, dans le monde entier, on a entendu cela, qu'on commence à penser en toute bonne foi, ça délape un peu partout, ça retourne à l'impérialisme un peu partout, mais qu'on a pu, comme une évidence universelle, penser à la gestion de la société humaine, non plus du dedans de la rigueur absolue de la loi, mais avec l'aménagement d'une unité des valeurs, la charité, y entendu comme système politique et non pas seulement comme système de vie spirituelle, que là, les juifs ont de nouveau pensé que l'idée d'un État juif était pensable, était vraisemblable. Vous voyez, en quelque sens, c'est par exemple, on n'a eu que les premières phrases, mais voici que je voulais en arriver. Le Rav ici cite le Midrash. Yaakov, Shalach, l'Esav, Etat, Forpira. Ça veut dire, Jacob a donné à Esaü la couleur pourpre qui est celle de la souveraineté politique, le manteau royal, qui est celle qui est le rouge. la couleur rouge qui est celle de la souveraineté politique, en disant « Yahavorna Adoni Ifne Avo ». Jacob s'adresse à Élie en lui disant « Tirez les premiers, mais tirez les Romains, si j'ose dire. Commentez-vous. Si, pendant tout le temps où l'État fait la barbarie, c'est à vous. Nous n'en voulons pas. » Voilà, grosso modo, et ensuite, le rap, ce texte est écrit il y a plusieurs dizaines d'années, annonce cette espérance d'un temps où la gestion de la société pourrait être, au nom de la moralité, ce qui, comme vous le savez, a été l'utopie fondamentale du mouvement sioniste au mouvement politique juif. Et vous comprenez toute la dialectique de problèmes qu'il y a derrière cette analyse en quelques lignes du Rafouk et pourquoi il y a eu une telle résistance à habiliter que peut-être le temps des utopies sociales étant venu, le temps de réintégrer la vie politique est venu aussi pour le peuple juif. Du dedans de cette référence. Alors, je voudrais vous citer d'abord un Baal HaTourim, qui est un des commentateurs traditionnels de la Torah, un Baal HaTourim qui m'avait toujours intrigué, jusqu'à ce que j'ai pu un peu le recoller à cette analyse. Cela se trouve à la fin de la parasha de Chayei Sara, donc le verset 18 du chapitre 25 de la Genèse. Et le dernier verset indique qu'est-ce qui arrivera de la descendance de la généalogie de Ishmaël à la fin de Chayei Sara. Et puis, dans ce dernier verset, la dernière expression pour parler de Ishmaël, c'est Al-Pene Kolechav Nafal. Qu'en fin de compte, l'identité d'Ishmaël tombe Nafal à la face de tous ses frères. C'est un thème pour lui-même, mais du devant de cette expression, le Baal HaTourim enseigne une relation avec le verset suivant. Le verset suivant, qui est donc le verset 19 du chapitre 25, dit « Et elle est ton dos qui frappe Ben Abraham. » Et voici les amendements d'Isaac, fils de Abraham. Nous avons un principe de lecture du Midrash qu'apparaît-il de l'enjambement des versets. Donc, ce qu'on appelle une tsmichut. Que le fait que le texte biblique est enseigné le commencement des enjambements d'Isaac à la fin de l'histoire des enjambements d'Ishmaël. Alors le Baal HaTourim dit « Samichle ve'ele tozot Yitzhak » et on a joint à la chute d'Ishmaël le commencement des enjambements d'Isaac, l'Oma, pour nous dire que chez l'Ipon Ishmaël, que lorsque viendra le temps de la chute d'Ishmaël, v'acharit ha'yamim, à la fin des temps, Agai alors Tzmach ben David, germera l'identité du fils de David, c'est-à-dire l'identité messianique de la souveraineté politique restaurée pour Israël, chez vous, Mitozot Yitzhak, qui lui est de la descendance d'Yitzhak. Quelle est la difficulté de ce Baal HaTourim? D'abord, c'est qu'il a l'air anodin. Voilà. On va, de façon un peu formelle, relier la fin des temps, c'est la grande querelle Ishmaël-Isaac, mais à la fin des temps, selon le récit biblique, Isaac arrivera triomphant de cette querelle, et alors le fils de David, c'est-à-dire le Messie d'Israël, apparaîtra, Messie d'Israël, qui est la descendance d'Isaac. Mais David, comme ancêtre du fils de David, est aussi la descendance de Jacob. Il y a là un lien très direct. Il y a deux hommes pour qui la Torah dit qu'ils avaient cette prérogative de la couleur rouge qui, dans le Midrash, représente la vertu de rigueur absolue. Vous le savez d'autre part, la Midat HaDin a comme couleur la couleur rouge, alors que la Midat HaChesed a comme couleur la couleur blanche. Mais au-delà même de ce symbolisme, c'est plus qu'un symbolisme, des couleurs, c'est Ésaü qui représente cette conception de l'État où le juridisme absolu prend le pas sur la valeur de la personne. Or, deux hommes sont appelés rouges à leur naissance. C'est premièrement Ésaü, je vous donnerai le verset, verset 25 de Genèse 25, va laisser à Richon Admoni. Lorsque Ésaü et Jacob vont naître, ils sont jumeaux. Le premier qui apparaît à la naissance, c'est Ésaü, et le texte dit « Vayetse Arishon Admoni ». Et le premier est sorti, Admoni, rouge, rougeâtre, paré du vêtement de la poutre royal. Le deuxième, c'est David. C'est dans Samuel, premier livre, chapitre 16, verset 12. Et en s'agissant de David, veux-vous admonir, rien n'y est fait, Enaïm. Et lui, David, était aussi rouge, mais avec de beaux yeux, avec les yeux beaux. Les Midrashim, à ce propos, tant pour Enaïm que pour David, nous mettent en opposition un fils d'Isaac, qui serait le fils d'un Isaac non ligoté, d'une vertu de rigueur non réprimée qui va fonder l'empire romain, Esaü. L'autre, à la fin du temps, lorsque le sacrifice d'Isaac, sacrifice en privé, la ligature d'Isaac aura réussi cela, que la vertu de rigueur indispensable sera quand même ligotée, alors peut apparaître l'identité de David, qui est le temps du royaume messianique. Je voulais relier ces deux versets. Les mettre en présence, c'est pas suffit. Des deux, il a été dit Admoni. Mais David Admoni est capable d'être fils d'Abraham. Il a des yeux doux. Vous avez vu, vous, un incest avec des yeux doux, en général, c'est clair. Hein? Le Esaü, c'est cet homme rouge sans les yeux doux. Alors que David, lui aussi, est roux, mais il a les yeux doux. D'où il les a, dit frère. Et c'est le choc de ces deux versets qui nous montrent la différence. Voilà ce que voulait dire le Baal HaTourim. Que le fils de David naîtra de la naissance d'Isaac. C'est un Isaac devenu David, et non pas un Isaac devenu Ésaü. Je terminerai, puisque j'arrive à l'heure, je terminerai en vous citant un thème de bibliographie des citations bibliques. Le mot de Toledot, qui signifie à la fois, comme vous savez, l'histoire et les engendrements, est employé Toledot, est employé 13 fois dans le texte biblique. Mais avec chaque fois une caractéristique. Là, vous me permettez une parenthèse grammaticale et exégétique. Vous savez que les mots hébreux dans le texte biblique peuvent être écrits avec toutes les lettres voyelles, enfin, pas les voyelles, mais les lettres voyelles, comme par exemple le Vav ou le Yud, avec toutes les lettres qui comportent ou bien sans une de ces lettres. On appelle dans le premier cas malé, le mot est écrit plein, dans le deuxième cas rassé, le mot est écrit défectif, enfin manquant d'une lettre. La première fois que le mot toldot est employé, c'est dans le verset 4 du chapitre 2. Voici les engendrements, l'histoire des cieux et de la terre en leur création. Le début de l'histoire. Là, le mot est écrit en plein, avec vav de tole de, les deux vav, celui du début, celui de la fin. Encore 11 fois, ce mot de tole de, pour dire les engendrements, revient dans l'histoire des patriarches. Toujours écrit d'effectif. C'est tantôt le vav du début, tantôt le vav de la fin qui manque. Ça veut dire que tant que les engendrements sont en cours, l'histoire est effective. La plénitude n'a pas encore émergé. Là où d'ailleurs le mot de Toldot est écrit Hafer et Hafer, ça veut dire complètement effectif, c'est pour dire dans la fin de Hayesara, les engendrements d'Ishmaël, et là il n'y a ni le premier vav, ni le dernier vav. Et puis en fin de compte, la 13e fois où ce mot de Toldot est employé, c'est pour les engendrements qui mènent à David. C'est dans Ruth, chapitre 4, verset 18, et les Toldot Pérès. Voici les engendrements de Pérès, qui sera l'ancêtre de David, pardon. Vous savez, le dernier mot du livre de Ruth, c'est pour nous dire qu'en fin de compte, les engendrements ont réussi, et que, à travers Abraham, Isaac et Jacob, enfin, David va naître, et là, le mot de Toldot est écrit avec les deux vases, c'est-à-dire pleinement. Pour résumer tout cela, quand nous avons une lecture extrêmement importante, il s'est passé quelque chose, bien que le sacrifice n'ait pas eu lieu. Il s'est passé quelque chose, mais il fallait que la Kabbalah nous enseigne. C'est que Abraham va pouvoir être l'homme de charité à plein, parce qu'Isaac a été ligoté, parce que le juste de la vertu de rigueur a été attaché. Il y a un un accord entre Abraham et Isaac qui va permettre une longue et difficile tentative d'engendrement de David, c'est-à-dire le roi qui a les beaux yeux. Vous vous rappelez du sens de non pas ce roi rouge qui est le rouge romain de la société des droits romains, ce roi terrible qui a fondé l'Empire, mais le roi messianique qui descend d'un Isaac d'après ce qu'on a appelé à corps de sacrifice, mais d'après la ligature par les mains d'Abraham. C'est l'essentiel de ce que je voulais décrire.
Bien vouloir les noter, et vous aurez la parole autant de temps qu'il vous faudra, jeudi soir, au moment de la table ronde. Vous pourrez à ce moment-là poser les questions qui concerneront tant les communications de la zone neutrale que les communications de M. Messas demain lundi, celles de mardi et mercredi, puisque la table ronde aura lieu jeudi soir. Après le thème de l'exégèse biblique, nous passons maintenant à la littérature israélienne contemporaine. Et avant de donner la parole à M. Seignac, qui va présenter la nouvelle de Albert Yehoshua, le début de l'été 70, et avant de donner la parole à l'auteur même de cette nouvelle, Albert Yehoshua, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, et qui est à Paris en raison de la sortie en librairie de la traduction française de son dernier roman, Pamé Ahev, l'amant, je voudrais simplement et très brièvement me référer à un thème qui me paraît important dans la littérature israélienne contemporaine. Et c'est à Chaim Hazaz que j'emprunterai les brèves réflexions qui vont suivre. Chaim Hazaz a été l'un des écrivains les plus marquants de la génération littéraire qui a suivi la fondation de l'État d'Israël. Et c'est un peu une injustice du sort que son contemporain Agnon, rendu célèbre par l'obtention du prix Nobel de littérature en 1966, ait en quelque sorte rejeté dans l'ombre l'auteur des nouvelles, des récits, des romans que certains d'entre eux apprécient et ont étudiés. En effet, Hazaz a supposé de manière éclatante les problèmes fondamentaux auxquels Israël s'est trouvé confronté tant pendant la période qui a précédé la fondation de l'État que pendant les décennies qui ont suivi. Je ne me référerai ici, faute de temps, qu'à deux courtes nouvelles qui ont véritablement marqué, du moins la première d'entre elles, le courant d'idées et de pensées en Israël. Cette nouvelle est intitulée Hadrasha, le serment, et elle a pour thème essentiel, justement, le serment prononcé par le héros Yuké lors d'une assemblée générale de son kibbutz. Yuké, ce taciturne, généralement gardant un silence fermé, brusquement explose et met en accusation de manière implacable la galoute et le désir des Juifs qui vivent en exil de continuer à vivre comme si de rien n'était, tout en formulant trois fois par jour le souhait séculaire « Ramène-nous, Seigneur, à Sion, l'an prochain à Jérusalem. » Et hier soir, à le mettre au choix, c'est longuement référé à ce thème, s'il ne s'est pas référé directement à Chaim Hazaz. En fait, nous dit Yudke, ils ne veulent pas délivrer tout le reste de littérature. Et il termine son intervention par une sorte de profession de foi. Je crois que Eretz Israël, ce n'est plus le judaïsme. Cela est vrai dès à présent, à plus forte raison dans le futur, ou alors il s'agira d'un tout autre judaïsme qu'il conviendra de définir. le judaïsme de grand-père et de grand-mère, ses futilités dépassées, et même la littérature hébraïque qui continue obstinément à puiser ses sources dans le passé, à se référer au village de la Kalout, tout ceci constitue une peine inutile, tout ceci est dépassé, tout ceci est brisé. Kaput, Nadiniutke. Et c'est dans cette même nouvelle que figure la tirade célèbre, la déclaration de guerre à outrance à l'histoire juive. Je la refuse, dit Yutke, avec l'obstination farouche d'un homme absolument convaincu de ce qu'il affirme. Je refuse tout. Je n'accepte pas le moindre détail, pas le moindre trait, pas le moindre point, rien, rien de rien, absolument rien. Qu'y a-t-il dans cette histoire? Des persécutions, des accusations calomnieuses, des souffrances indicibles, le martyr. Puis à nouveau, des persécutions, des accusations calomnieuses, des souffrances indicibles, et encore le martyr, et encore, et encore, et encore, et jusqu'à l'infini. L'histoire juive est ennuyeuse, insipide, sans aucun intérêt. Il n'y a ni acte, ni épopée, ni héros, ni conquérant, ni dictateur, ni homme de ouf, ni d'empereur suprême, mais au contraire un ramassis d'hommes souffrants, ballottés, gémissant, pleurant, suppliant, invoquant la miséricorde. Quant à moi, j'interdirai l'enseignement de l'histoire juive. Pourquoi enseigner le propre de nos ancêtres? Je dirais tout simplement à mes élèves, mes amis, nous n'avons pas d'histoire. Depuis que nous avons été exilés de notre terre, nous sommes un peuple sans histoire. Vous êtes libres, allez donc faire une partie de football. Or voici que, 30 ans après, le vieil Azaz met en scène un jeune membre d'un kibbutz de Galilée qui ressemble à Yutke comme un fils peut ressembler à son père. Et à la manière du célèbre tableau de Léonard de Vinci, où l'on voit face à face un homme âgé et un jeune homme, le premier pouvant être le père du second, les yeux dans les yeux avec des regards exprimant à la fois la parenté et l'hostilité. Uri, le héros de la nouvelle, Hanéelam, le disparu, a fait la guerre et il est revenu dans un état de dépression totale. Cette nouvelle est d'ailleurs prémonitoire de la réaction des héros de la guerre de Kippour et du tremblement de terre spirituel qui a suivi. Uri a vu tomber à ses côtés ses amis les plus chers, Gidon, Zabik, alors que lui est ressorti indemne de cette guerre cruelle, et il se demande, pourquoi a-t-il été épargné par hasard? Pourquoi? Peut-être, n'est-ce pas un hasard? Peut-être suis-je moi-même coupable d'être encore en vie? Ce complexe de culpabilité le conduit à se poser un certain nombre de problèmes qui prennent le contre-pied de ceux qui semblaient avoir trouvé une réponse définitive dans le sermon de Yutke. Quel droit possède le peuple d'Israël sur la terre d'Israël? Un droit historique? Et si durant une période si longue nous n'avons pas été présents ici et que le peuple arabe s'est installé sur cette terre, quelle peut être la valeur de notre droit historique? Certains de ses amis ont essayé de lui démontrer que cette position n'était pas défendable. D'autres considéraient qu'il fallait le laisser retrouver lui-même son propre équilibre. Mais Uri a insisté. C'est une question de conscience qui me bouleverse, une question beaucoup plus fondamentale que l'existence même du peuple juif. En fait, qu'est-ce que l'existence du peuple juif? Pourquoi? À quelle fin? Pourquoi les juifs ne se sont-ils pas assimilés à l'instar de ce qui s'est passé en Russie, en Amérique, dans les pays scandinaves, partout ailleurs dans le monde? Influencé par son ami Yahir, lui aussi ancien membre du kibbutz, qui avait décidé de s'installer définitivement dans une yeshiva de Jérusalem et de s'adonner à l'étude de la Torah et aux mitzvot, Uri décide d'aller rendre visite à Rabbi Shimon Lutziner, qui est le chef de la yeshiva des jeunes Baalei Teshuva, c'est-à-dire des jeunes qui reviennent au judaïsme. Et Rabbi Shimon va tenir à Uri une dracha, un sermon, qui prendra très exactement le contre-pied de celle de Yutke. Et ce rabbi enseigne, le pays d'Israël est l'un des trois présents que le Saint béni soit-il a donné à Israël, et ces présents ne furent donnés qu'accompagnés de souffrances et d'épreuves. Le Saint Rabbi Yitzhak Luria a donné un verset biblique qui les rappelle par allusion. Ahad sha'alti me'et Hashem ota havakesh. Je demande au Seigneur une seule chose, dit le psalmiste. Et Ahad, fait remarquer le rabbin, est composé de trois lettres hébraïques. Aleph, Chet, Tav.